Rencontre aujourd'hui avec Lenka Horniakova-Sivad. Lenka Horniakova-Sivad, écrivaine et peintre tchèque installée dans le sud de la France, dont le premier roman, rédigé en français et intitulé « Giboulée de soleil » vient de paraître en France. Une histoire de filiation de mère en fille sur plusieurs générations, et ce dans la Tchécoslovaquie de l'après-guerre jusqu'à la fin des années 1980. Lenka Horniakova-Sivad a évoqué donc ce premier roman « Giboulée de soleil » et a répondu aux questions d'Anna Kubishta.
Culture sans frontières.
Lenka Horniakova-Sivad, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes d'origine tchèque, mais vous vivez en France, vous êtes née en Moravie, on va un petit peu rappeler votre parcours. On s'était déjà rencontrés il y a quelques années, en 2013, si ma mémoire est bonne, puisque vous aviez publié avec une autre écrivaine, cette fois-ci française, qui vivait à Prague, Anne de la Flotte-Médévie, un livre de correspondance. Vous êtes aussi peintre.
Oui.
Et en fait, on se rencontre aujourd'hui pour votre premier opus littéraire et en français.
Exactement.
Qui s'appelle Giboulée de soleil et qui est paru aux éditions Alma, Alma éditeur. Vous avez déjà testé un peu l'écriture avec ce livre de correspondance, mais cette fois-ci, c'est vraiment un roman littéraire à proprement parler, on va dire. L'écriture, ça a toujours été un désir à accomplir pour vous ?
Je crois que l'écriture faisait partie de ma vie vraiment depuis assez petite. Mais au départ, sans ambition littéraire, c'était probablement un refuge ou un monde dans lequel on s'échappe d'un quotidien qui ne nous convient pas, ou enfin voilà, on s'invente des histoires qui nous plaisent, n'est-ce pas? Donc oui, l'écriture m'accompagne depuis toujours. Et par contre, l'écriture en français, évidemment, c'est une grande nouveauté. Ce n'est pas si évident que ça.
Mmh. On pourra revenir justement après sur ce changement de langue, hein, parce que c'est quand même important, c'est un grand pas. Dans ce roman, alors vous balayez, on va dire, un demi-siècle de l'histoire tchécoslovaque, hein, à travers l'histoire personnelle de trois femmes, donc c'est plusieurs générations de femmes qui succèdent, c'est-à-dire une mère qui a une fille, qui elle-même a une fille. Pour deux d'entre elles, si je me trompe pas, ce sont des bâtardes, on va dire. C'est comme ça que d'ailleurs que c'est présenté,
oui,
hein.
Oui, oui.
C'est assumé, puisque elles sont de pères inconnus, ou alors on sait qui c'est, mais
le père n'est pas présent.
Le père n'est pas présent, ne les a pas ou reconnus ou connus tout simplement. Comment est née cette histoire de filiation?
Je crois que cette histoire de filiation m'a toujours attirée. Enfin, bon, la famille, tout le monde en a une. Et je crois que ce côté de père en fils, quelque chose d'assez entendu, m'a peut-être donné envie d'écrire de mère en fille. Et c'est vrai que le nom, c'est quelque chose d'important. Et le nom est donné de père en fils. C'était une des questions qu'on avait beaucoup débattues avec Anne, d'ailleurs, même dans les correspondances. Comment la femme est identifiée dans la société, et c'est soit par le nom de son père, par le nom de son mari, par le nom de son frère. Enfin bon, la femme n'a pas forcément son nom à elle. Et donc, dans ma lignée des bâtardes, elles ont le nom de la mère, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère. Je crois que cette idée m'a beaucoup plu. Mais il fallait qu'elle assume, en fait, cette filiation-là. Et donc, l'idée, c'est de ne pas avoir honte de ce qu'on est et de ne pas subir la pitié de ce qu'on est. Donc, c'était, je pense, une des grandes idées directrices de cette construction de mère en fille.
C'était important pour vous d'écrire sur la Tchécoslovaquie pour ce premier roman, parce que ça se passe en Tchécoslovaquie et c'est vraiment l'histoire récente et très douloureuse, hein, finalement, de ce pays.
Oui, et je pense que c'était important d'écrire sur la Tchécoslovaquie et probablement, ou certainement même, en français, parce que cette langue-là m'a donné la possibilité de dire ce qui restait indicible dans ma langue maternelle, je pense. C'était comme une nouvelle liberté d'utiliser le français, c'était comme le juste moyen, dans le sens bon moyen, de pouvoir dire justement la douleur, les atrocités, aussi l'amour, et peut-être aussi de le raconter en français aux Français.
Mmh. C'est aussi une mise à distance hein, pour. C'est,
exactement. Mmh. En fait, exactement ce qu'on fait, que ce soit dans la peinture ou dans l'écriture, il faut trouver le bon moment, le bon ton et la bonne distance pour bien voir son modèle, pour bien le peindre. Si on est trop près, on ne voit pas. Si on est trop loin, on ne voit plus.
Quelles difficultés vous avez rencontrées ? Parce que j'imagine qu'il y en a eu quand même, hein, de passer à votre langue d'adoption finalement. Pour l'écriture.
Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai le livre est séparé en trois parties et chaque partie est racontée en jeu par une voix d'une femme différente.
On va d'ailleurs les citer, hein, ces trois femmes. Elles s'appellent Magdalena, Libouchet et Eva.
Exactement. Et chacune d'elles a son propre caractère, sa propre histoire. Et chacune donc raconte sa vie. Et à travers elle et son regard, on voit ce qui se passe autour, ce qui se passe avec les femmes précédentes et ce qui est dans l'actualité. On n'ose pas trop de faire les projections et rêver d'avenir, bien sûr. Et c'est la suivante qui nous compte la suite de la précédente et ainsi de suite. Et donc c'est ce jeu qui m'a à chaque fois permis de se placer et dans l'histoire et dans la vie de quelqu'un et utiliser la langue relativement simple pour dire des choses complexes. Parce que dans ce jeu, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de construction très compliquée. Elle narre vraiment ce qu'elle vive, mais avec une lucidité, on va dire, avec un bon sens appliqué. Et je crois que c'est, je crois que c'est ça la force en fait de ce langage et de ce livre.
Et puis alors on suit évidemment, vous le dites, évidemment l'actualité, en fait l'actualité historique hein, pour le coup. C'est vraiment en filigrane, c'est présent sans trop l'être. Donc on sait qu'il y a eu un putsch communiste, qu'on est après la guerre pour la première. Après on sait qu'il y a 68 pour la seconde. Et la troisième c'est la période de normalisation et le basculement qui se fait pas en fait, mais qu'on suit. Je suppose qu'il est imminent vers la démocratie et vers le retour de la démocratie. Donc en fait, elles vivent dans ce présent qui est le leur et qui est très difficile. C'est vraiment un juste équilibre. J'imagine que vous avez dû trouver un équilibre entre l'histoire personnelle de ces femmes et l'histoire, la grande histoire avec un grand H.
C'est ça. Moi, je voulais, je crois, démontrer que notre contexte nous influence beaucoup et que de vouloir jouer à l'autruche ne sert à rien parce qu'à un moment, la grande histoire, elle rentre dans votre cuisine et elle change votre vie. On a beau dire de ne pas s'intéresser à la politique, à ce qui se passe, etc. La grande histoire nous rattrape. On la vit tous les jours. Moi, je sais que quand on avait 18 ans et le mur est tombé, je ne pense pas qu'on réalisait à quel point, quelle grande histoire nous vivons. C'était juste merveilleux. Et elles ont des signaux qui leur arrivent ou des faits qui arrivent. Elles les pensent loin. Elles les remarquent parce que oui, ils sont présents, par moments même très présents, mais sans penser les conséquences. Et les conséquences, c'est peut-être la suivante qui les voit. Mm-hmm. Parce que pour notre présent, on a besoin d'un recul que nous n'avons pas. Et donc, c'est toujours la génération suivante ou celle d'après, peut-être, qui a nos propres retours. Sur beaucoup de choses, ce n'est pas aux enfants qu'on raconte, c'est aux petits-enfants qu'on raconte. Mmh. Et donc, la grande histoire a besoin le temps que nous n'avons pas dans notre quotidien, et pourtant, il nous influence terriblement.
C'est intéressant d'ailleurs, parce que la dernière, finalement, donc Eva, en fait, c'est un peu votre alter ego, parce qu'elle est née, à mon avis, à peu près à la même période que vous. Hein,
un tout petit peu plus âgée, mais enfin, de 2 ans.
Grosso modo, c'est la même génération. Ouais. Donc, vous êtes peut-être plus identifiée à elle ou...
Ma vie, si elle y est évidemment, elle est distillée bien dans les trois ou quatre, héroïnes. Mais je ne peux pas sincèrement m'identifier avec un des personnages. Vraiment, je ne rentre pas dans la peau d'aucune. Mm-hmm.
Mais elles vivent leur vie aussi.
Vivent leur vie, mais je suis dans toutes, bien sûr. Bon, évidemment, quand distille nos propres vécus et nos propres expériences ou ce qu'on a entendu, on vampirise un peu nos propres passés et les histoires qui nous sont proches, et puis le reste, ça imbrique, le puzzle se construit. Mais oui, je pense que nous portons aussi l'expérience de nos générations précédentes, sans le savoir forcément, sans le chercher, et que chaque génération prépare la suivante. Et il y a beaucoup de non-dits dans le livre, parce qu'on les pense protecteurs, ces non-dits, et ils ne le sont pas forcément. Non-dit peut causer beaucoup plus de dégâts qu'on ne croit. Et c'est peut-être la dernière qui va avoir les clés de tout un tas d'histoires. Et peut-être que ce savoir-là va lui permettre, on ne sait pas.
Oui, c'est une porte ouverte à la fin. On sait qu'elle va vers un autre avenir.
Voilà, on peut espérer pour elle. C'est peut-être ça, ce rayon de soleil qui arrive. Parce qu'elle est une des dernières... Enfin, de ces quatre, c'est celle qui, a priori, c'est le plus.
C'est intéressant, vous parliez tout à l'heure de peinture, vous compariez un peu littérature et peinture. On pourrait faire une autre comparaison d'ailleurs qui est assez un peu en filigrane aussi de ce livre, hein, parce que toutes savent broder. C'est des broderies moraves, traditionnelles, elles ont un savoir-faire, on va dire ancestral. Et finalement, vous avez un peu tissé cette histoire, comme elles font leur broderie.
Oui, c'était ouais, très bien. Merci de l'avoir remarqué. C'est vrai que c'est une histoire un peu brodée et j'aimais beaucoup le fil qui traverse le tissu, qui raconte l'histoire. Et d'ailleurs, les Bouchets est peut-être le plus marqué par la broderie parce qu'elle dit elle-même, j'ai su manier le fil et ma mémoire, je l'enfile sur ce fil. Ce que je veux oublier ou ce que je veux me rappeler, je le cache dans mes broderies. Il n'y a que moi qui peux le lire, ces petites failles qui sont donc inscrites sur le tissu. Et même à un moment, on saute dans les pensées de Lee Boucher, comme on peut prendre un fil, on compte une petite histoire, hop, on prend un autre fil et on est dans un autre moment de sa vie. Donc oui, l'aiguille et le fil... de couleur, bon là en l'occurrence rouge, était effectivement quelque chose qui m'a beaucoup guidée dans l'écriture. Ouais.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez aussi écrit ce roman en français pour les Français. Bon, il vient de paraître, hein, ça fait pas longtemps. Est-ce que vous avez eu un peu des retours justement côté français pour des gens par exemple qui ne connaissent pas forcément l'histoire de la Tchécoslovaquie mais qui vous connaissent vous ou alors des gens carrément qui ont totalement découvert et vous et le roman, est-ce que vous avez déjà eu des retours?
Mes amis m'ont beaucoup encouragée, je dois dire, et j'ai eu des retours très positifs de mon entourage proche, donc ça ne compte pas parce qu'ils m'aiment, voilà, tout simplement.
C'est pas objectif.
C'est pas objectif, non, je les remercie énormément parce qu'évidemment le soutien était très très important. Et j'ai eu des retours très sympathiques et chaleureux de certains libraires, donc j'espère qu'ils vont... Et je crois qu'ils vont donc soutenir le livre et en parler à leurs lecteurs. Et certains lecteurs qui m'ont écrit. Donc ça, c'est des retours qui sont vraiment... Ça me fait très, très chaud au cœur. Pour moi, en tant qu'écrivain, mais je me sens un peu maternée. Mes filles, mes femmes, je suis très contente qu'elles aient trouvé les oreilles attentives. Voilà, qu'elles ont pu conter leur histoire et puis qu'elles ont trouvé un écho... auprès des lecteurs.
C'est peut-être prématuré de vous demander ça pour finir. Est-ce que vous envisagez un autre roman en français, en tchèque? Quelle langue? Allez.
Alors, je vais continuer à travailler dans les deux langues, ça c'est sûr. Je ne saurais plus choisir. Et oui, les projets, il y en a, mais j'aime tellement pas dévoiler les projets.
Ah non, non, je ne vous demande pas dévoiler, mais si en effet, il y a quelque chose en gestation, voilà.
Ah oui, alors là, en gestation, oui.
Comme on dit en tchèque, máme se na to se těšit.
Máme se na to těšit, exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.